Vous êtes sur RTL. Pascal Praud sur RTL.
Et le calendrier du déconfinement, on l'a appris hier dans cette émission, en fin d'émission d'ailleurs. On avait appris ces quatre étapes, le 3 mai d'abord, le 19 mai avec la réouverture des commerces, le 9 juin avec notamment le décalage du couvre-feu à 23h, et puis le 30 juin, on l'espère, avec toutes les restrictions levées. On est donc avec Alexandra qui a un commerce dans Paris, si je me souviens bien, de bijoux.
Oui. Bijoux, concept store, accessoires de créateurs, enfin, multitude de choses. Bon, chaussures, lingerie, etc.
Ah oui, il y a beaucoup de choses, effectivement.
Oui, c'est un concept store, donc effectivement, on vend pas mal de choses de créateurs français, européens.
Bon, vous serez resté fermé combien de temps ?
2 mois, 19 mars au soir, 19 mai au matin, 2 mois, Pascal.
Quelles sont les aides que vous aurez reçues ?
Ah bah écoutez, je ne sais pas, parce que là déjà, on n'arrive pas à avoir les aides du mois de mars. Donc, le formulaire est en ligne depuis le 20 avril. Impossible soit d'accéder à la plateforme, soit d'être dans la bonne case, soit les dossiers sont en cours d'études. Donc, au moment où je vous parle, nous sommes un certain nombre de commerçants, en tout cas de mon association et certainement de partout en France, à ne pas encore avoir touché l'aide pour le mois de mars, et nous sommes le 30 avril.
A priori, on peut imaginer que même s'il y a du retard, ça va arriver. Donc, théorie, si tout se passe bien, vous toucherez combien ?
Ah bah pour le mois de mars, c'est la grande question, parce qu'il y a... Tout dépend dans quelle case vous vous situez. Donc ça peut aller de 1 500 € jusqu'à 10 000, ce qui pose des problèmes pour les personnes, par exemple, qui ont 3 boutiques, parce que pour 3 boutiques, ça ne veut pas dire qu'elles vont toucher 3 fois 10 000 €. Mmh. C'est-à-dire qu'elles vont toucher 10 000 pour les 3, mais il y a 3 loyers, ça, tout est multiplié par 3, vous pouvez bien imaginer.
Donc, mais vous, par exemple, prenons un exemple concret, votre magasin, votre commerce, vous, personnellement, vous allez toucher combien ?
Je suis censée toucher pour le mois de mars comme aide 3 400 €. 3 400, sauf que parce que j'ai fait plus de 50% de pertes sur le mois de mars, donc je dis ça pour que vos auditeurs comprennent, puisqu'il y a des paliers. Simplement, la machine informatique, je dirais, ne fonctionne pas correctement, il me plafonne à 1 500. Or, l'aide forfaitaire de 1 500 € pour le mois de mars s'applique lorsque l'on fait une perte comprise entre -20 et -50%.
Bon, c'est un peu compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour qu'on ait un ordre d'idée de votre commerce, chiffre d'affaires que vous faites habituellement au mois de mars, et de combien ?
Il faut quoi ? Alors, mars, on se repère en 2019, et c'était un mois de mars pourri parce qu'il y avait des gilets jaunes, pardonnez-moi l'expression. Donc, il faut compter à peu près un chiffre d'affaires de 7 000 € hors taxes.
Et là, vous toucheriez donc 1 500 au minimum et 3 400 si tout va bien, c'est ça ?
Voilà, vous avez compris.
Mais en même temps, ces 3 400 ou 1 500, c'est du net. Alors que le chiffre d'affaires que vous recevez, vous deviez, j'imagine, payer...
Non mais le chiffre d'affaires que je vous ai donné, permettez-moi Pascal, c'est du chiffre d'affaires hors taxe. On s'exprime toujours en hors taxe quand on parle de chiffre d'affaires.
Oui.
Donc c'est le complément. Donc, quand moi je vous dis un chiffre d'affaires de 7 000 €,
là-dessus,
il faut multiplier par 20%.
Oui, j'entends bien, mais sur les 7 500 € de chiffre d'affaires que vous faites, il faudrait soustraire le prix que vous avez acheté de la marchandise, alors que dans les 1 500 ou 3 400 que vous allez toucher, c'est du net, si j'ose dire.
Oui. C'est du net, oui. Enfin, vous savez, c'est pas rassurant pour autant. Hein.
Non, je suis d'accord avec vous, mais a priori...
Les stocks, on les a, on va pas les manger, enfin,
vous
voyez.
Non, mais j'essaie toujours de comprendre, mais
je
trouve que si ça se passe aussi bien que possible, c'est-à-dire que si vous touchez 3 400 € net pour vous, j'ai envie de dire que vous retombez sur vos pieds, j'ai l'impression.
C'est
de la théorie, mais quand on fait cette
mission... C'est une théorie, mais quand on rentre dans ma boutique et qu'on voit tout le stock et dans
des tonnes... Oui, mais votre marge, elle est sans doute de vous multiplier par 2.
Ça dépend des articles.
Entre 2 et 3, sans doute ?
Non, pas entre 2 et 3, entre 2 et 2,3 plutôt.
Bon, donc quand vous faites 7 500 € de chiffre d'affaires, vous avez sorti de votre poche 3 500 €, en gros.
C'est ça, à peu près.
Bon, bah là, les 3 500 €, vous les récupérez.
Oui, mais enfin, c'est pas comme ça qu'on...
Vous voyez, à grands traits, je le fais comme ça.
C'est très... Permettez-moi, je suis désolée, j'adore vos émissions, vous êtes un super journaliste, mais voilà.
C'est à grands traits.
C'est vraiment très grossier, parce que réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, vous entrez dans les boutiques, le stock est là, on peut pas payer nos loyers. Je vais vous dire une chose, moi j'ai 2 comptes bancaires professionnels. Ce matin, les 2 comptes cumulés, je suis à -6 000 €.
Oui, mais c'est...
Bah oui,
c'est
parce que bah oui, les échéances tombent, parce qu'il faut bien payer tout le reste, et la marchandise est bloquée. Et 2 mois de fermeture qui s'ajoutent, ne l'oublions pas, à 2 mois l'année dernière et à 1 mois
bien
en novembre.
Bien sûr.
Mais c'est 5 mois sur 14 mois, hein, c'est-à-dire qu'on a...
Je suis d'accord. La marchandise, d'ailleurs, en stock, vous l'avez payée ou vous pouvez échelonner le paiement ?
Alors, il y a une grosse partie qui a été payée, c'est pour ça que je suis à découvert, et il y a toute une autre partie, bien sûr, qui va pouvoir être échelonnée parce que j'ai des créateurs super sympas, adorables, et on s'entraide, donc on va pouvoir trouver des arrangements. C'est pas avec les fournisseurs et les créateurs qu'on a le plus de problèmes, hein, je dirais. C'est pour certains d'entre nous, certains bailleurs. Nous avons vu au Village Fédère des bailleurs ne pas hésiter à envoyer des huissiers, alors qu'ils voyaient que certaines boutiques étaient fermées. Donc je peux vous dire que c'est beaucoup de choses accumulées, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. C'est pas aussi simple que, bon, vous allez toucher combien, tic-tac, allez hop, tout va bien. Non, c'est pas ça, la réalité de nos quotidiens.
Bon,
vous voyez,
bah,
Pascal.
Non, mais merci de ces précisions. Pardonnez-moi, je pose des questions un peu indiscrètes.
Mais vous avez parfaitement raison. Mais... Non, c'est pas indiscret, vous avez parfaitement raison. Je vais vous dire pourquoi vous avez raison. Combien de fois nous entendons-nous, commerçants, des gens nous dire, oh, bah, de toute façon, vous allez toucher des aides. Mais les gens ne se rendent pas compte. Déjà, comme je vous dis, il faut rentrer dans la bonne case. Et moi, apparemment, je ne rentre pas dans la bonne case, là. Donc, alors, on a fait remonter au cabinet de monsieur Alain Griset la semaine dernière. On attend des nouvelles et s'il nous écoute, avec la CDF, avec la FACAP, avec un... certain nombre de fédérations, nous attendons des nouvelles du ministre, monsieur Alain Griset.
Ben merci beaucoup.
Merci à vous, Alexandra. Pascal, pour votre écoute et vos émissions.
Ben
merci.
Je vous en prie, Alexandra.
Merci
beaucoup. C'est la réouverture, monsieur Greg Caranoni. C'est la réouverture, sauf des discothèques, mais on peut peut-être faire la fête ce vendredi.
C'est une excellente nouvelle.
Et écoutez, je ne sais pas, sous les sunlights des tropiques, par exemple. puisqu'on
d'accord.
Y... Bah, d'accord, vous dites ça comme si
c'était... Non, c'est très bien, je suis d'accord, bien sûr.
Je précise à tous nos auditeurs qu'aujourd'hui, nous n'irons pas voir Christian Olivier dans son service des sports.
Pourquoi ?
Mais parce qu'on ne va pas le faire tous les jours, c'est tout.
Oh, cette mission immersion était formidable hier.
Il y en a qui vont à 400 km au-dessus de la Terre, et nous allons à 10 mètres de notre studio.
Chacun avec ses moyens.
A tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
On va vraiment parler des discothèques tout à l'heure, parce que ce sont les grands oubliés. Et si vous êtes patron de discothèque, en fait, on vous dit que vous êtes mort, quasiment, puisque les discothèques n'ont pas ouvert, plus exactement, depuis mars 2020, et qu'on ne sait pas quand elles vont rouvrir. Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous nous appelez depuis le début de l'émission pour nous parler du calendrier du déconfinement. Êtes-vous pressé de retrouver une vie un peu plus normale ? Eh bien, je vais savourer cette vie qui reprend. Réagit Véronique sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Un verre en terrasse pour Gaël. Enfin, un calendrier, applaudit Grégory. Pour José, croisons les doigts pour que l'épidémie ne s'aggrave pas. Aline parle d'une pure folie, j'imagine l'épuisement des soignants. Et pour Gaëtan, un beau calendrier pour permettre aux Français de partir en vacances. Les patrons discothèques, vous l'avez dit Pascal, se sentent par contre comme les grands oubliés. Mathieu Lebrun, le porte-parole des gérants de boîtes de nuit en Bretagne et Normandie, était l'invité de RTL Midi.
C'est tout simplement du mépris, de la colère, de l'incompréhension. Rendez-vous compte, ça fait 15 mois que nous sommes fermés, 15 mois que nous vivons l'ascenseur émotionnel. Je pense, et je m'en excuse auprès du ministre de la Santé, peut-être que quand il faisait ses études de médecine, il a été recalé d'une boîte de nuit et depuis il nous en veut. On réclame un rendez-vous avec le président de la République pour enfin qu'on nous entende. On est des professionnels, on n'est pas des fous.
Je ne comprends pas, lance Joël sur nos réseaux sociaux, des jeunes font la fête non masqués. Le soir, on pourrait dans quelques semaines les encadrer, donner à ces patrons de boîte de nuit une date, hein, demande Sylvain, c'est la moindre des choses. Comment peut-on tenir psychologiquement avec cette incertitude ?
Il y a 1648 établissements enregistrés comme discothèques en France. Il y a 131 qui sont en liquidation judiciaire aujourd'hui, 150 en règlement judiciaire et 150 ont fermé volontairement. Ça représente donc 430 sur les 1600, c'est quasiment un quart aujourd'hui des discothèques qui sont fermées ou vont fermer. On est avec Jean-Marie qui est président de l'association exploitant discothèques de la Loire. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Pascal.
J'imagine que c'est pas facile et que vous êtes en colère.
Oui, c'est pas facile, c'est pas simple. Depuis le 13 mars de l'année dernière, on est fermé, on nous a fermé du jour au lendemain, et puis là, on n'a aucune visibilité. Là, je suis abasourdi par les décisions qui ont été prises hier. Je trouve ça inéquitable, discriminatoire, mais quel mépris, aucune consultation. On est qui ? On est des chefs d'entreprise de seconde zone, on est les parias de la société.
Non, mais moi, je pourrais comprendre qu'on vous explique qu'effectivement, c'est un lieu particulier, les discothèques. que le soir, même vous travaillez la nuit, et que les gens parfois peut-être sont moins prudents la nuit parce que il y a l'alcool, il y a la fête, et qu'à 3 ou 4 heures du matin, c'est peut-être plus difficile de respecter un protocole. Je peux entendre cela. Bon, mais ce que je trouve absolument incroyable, c'est que on ne vous parle pas, on ne vous explique pas, on ne fait aucune pédagogie avec vous, et on ne vous dit rien. C'est ça que je trouve incroyable.
Ah non, on nous dit rien. Ce matin, j'écoutais Christophe Langot, le collègue de PACA, dans votre émission. Bon, mais il est dans le même état que moi. On nous demande rien.
Mais vous n'avez pas un interlocuteur au gouvernement ? Il n'y a pas monsieur ou une madame discothèque ?
Non, il n'y a pas de monsieur, madame discothèque au gouvernement. Non. Bon, bah, écoutez, voilà. Hein, c'est parce que ça fait partie
de l'art de vivre. C'est-à-dire que les bars, les restaurants, manifestement, ont réussi à peser sur le gouvernement. Il y a des personnes qui discutent avec les représentants des bars, des restaurants. Vous avez une personne qui parle en votre nom ?
On a des syndicats, on a donc la Fed dont je fais partie, il y a l'UMIH, voilà, qui discute avec M. Griset notamment. Il n'y a que M. Griset qui nous écoute, hein, j'ai l'impression, dans ce gouvernement. Et puis je pense aussi qu'il n'est pas très bien écouté non plus, malheureusement. Mais voilà, c'est tout, c'est la seule personne, le seul interlocuteur qu'on a, on n'a personne d'autre.
C'est vrai que M. Griset, comme vous dites, n'est pas forcément le ministre le plus connu, Alain Griset. Il est, je le rappelle, ministre, et il est chargé des petites et moyennes entreprises. Donc, a priori, c'est lui qui doit s'occuper de vous et qui est en contact avec Bruno Le Maire, évidemment, quotidiennement. Mais vous l'avez rencontré, par exemple, M. Griset ?
Oui, bien sûr.
Donc, il y a contact, alors ?
Ah ben, il y a contact, mais bon...
Ah oui, mais vous dites qu'il n'y a pas contact et que vous n'êtes pas écouté, c'est ça que... J'arrive pas à avoir sur ce dossier des échos. J'ai parfois des échos qui sont différents.
Mais M. Griset nous a écoutés pour l'élaboration des aides et des aides pour les discothèques, mais on n'a jamais été écoutés concernant les plans de réouverture, des choses qu'on avait à proposer pour la réouverture des établissements, des mesures qu'on allait prendre, des ventilations qu'on a dans nos établissements. Là-dessus, on nous écoute pas. Voilà.
Vous êtes donc propriétaire d'une boîte de nuit ?
Oui, depuis 30 ans.
D'accord. Donc cette boîte de nuit, elle est fermée aujourd'hui ?
Elle est fermée.
Depuis un an ? Est-ce que vous avez reçu des aides de l'État ?
Oui, bien sûr, oui, comme les mêmes aides qu'un bar qui a deux personnes. Voilà, ben, écoutez, moi je reçois 10 000 euros par mois. Bon, moi, c'est encore un cas particulier, parce que comme je trouve une retraite annexe, on me déduit de ces 10 000 et 1 500 euros de retraite.
Et ces 10 000 euros correspondent à quoi ?
Oh, c'est pour les frais fixes, pour les loyers, les charges, l'électricité, l'EDF, les assurances. Mais bon, voilà.
Ces 10 000 euros permettent de payer tous les frais fixes et vous arrivez à faire, si j'ose dire, un petit bénéfice dessus ? Ou est-ce qu'il faut que vous rajoutiez à la fin du mois de l'argent ?
Bien évidemment, ça fait pas le tour, le compte n'y est pas. Vous vous rendez compte qu'une entreprise qui a 20 employés, elle touche la même chose qu'un restaurant ou qu'un bar qui a 2 employés. Il y a des collègues qui ont 8 500, 10 000 euros de loyer par mois. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec 10 000 ? Ils peuvent même
bien
pas.
Sûr,
j'ai des collègues qui ont déjà utilisé deux PGE, et on est en train de financer maintenant certaines entreprises de la dette par de la dette.
Vous avez combien d'employés, monsieur ? Combien ?
Moi, personnellement, j'en ai 10.
D'accord. 10. Et vous n'aviez qu'une boîte de nuit, hein, vous ?
Oui, j'ai une discothèque, voilà,
une discothèque.
En centre-ville, à Rouen, voilà.
À Rouen.
Qui est ouvert 3 jours. À Rouen, dans la Loire, qui est ouvert 3 jours par semaine.
Qui est ouvert, généralement, c'est quoi, jeudi, vendredi, samedi ?
Voilà, c'est ça.
Bon.
JBS.
Est-ce que vous avez des perspectives ?
Ben non, on n'a aucune perspective.
Rien du tout. Vous savez pas, tout l'été, vous êtes fermé, peut-être ?
Eh ben peut-être, voilà. On attend maintenant que le bon vouloir de nos dirigeants qui vont nous dire au mois de juillet, ben écoutez, on espère que peut-être on ouvrira, mais bon, on sait ce qui va se passer. On n'est pas fous, hein, ce qui va se passer, il va se passer exactement ce qui s'est passé l'année dernière. Hein, ça va être open bar pour tout le monde. Les bars de nuit vont se transformer en discothèques, les restaurants vont se transformer en thé dansant. Nous, on a des équipes en place qui sont gérées. On a des établissements avec des ventilations, avec des extractions d'air d'une fois par minute. Bref, on est équipés. On a des gens qui sont là en place pour veiller aux gestes barrières. Bon, on est des professionnels, mais bon, on ne fait pas attention à nous, on nous néglige, je ne sais pas, je ne comprends plus, on est un petit peu perdu dans toutes ces décisions.
J'entends effectivement un peu de désespoir et c'est bien normal, Jean-Marie, et je vous comprends parce que votre secteur est particulièrement percuté par cette crise et que au moins on doit vous donner des perspectives. Voilà. C'est ça qu'on est en droit d'exiger, me semble-t-il, puisqu'il y en a pour tout le monde, des perspectives. En fait, il y a deux questions qui sont posées dans ce déconfinement. Première question, quand est-ce qu'on enlève les masques à l'extérieur? Et ça, personne n'y répond. Et la deuxième question, c'est les boîtes de nuit. Merci Jean-Marie.
Merci Pascal.
Merci à vous et courage à vous. Merci beaucoup.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
On est avec Yanis qui est chanteur et danseur professionnel. Bonjour Yanis.
Bonjour.
Et j'imagine qu'il y a un peu de soulagement depuis hier avec ces annonces. Une perspective, un calendrier.
Oui, alors il y a un mini soulagement parce qu'on ne va pas se mentir... ça reste encore trop de si et abstrait, en fait. Après, c'est légitime, on a un peu perdu confiance avec les perspectives parce qu'on en a eu à plusieurs reprises qui ont été finalement des faux espoirs. Donc, je vais pas mentir et dire que c'est un soulagement complet. Il y a beaucoup d'informations et de désinformations encore aujourd'hui. Donc, on attend un peu plus de concrétisation. Il y a beaucoup d'espoir. Une perspective, comme vous l'avez dit, qui est évidemment essentielle et qui nous fait vivre.
C'est rapide, a priori, le 19 mai. Réouverture des musées, monuments, cinéma, théâtre, salle de spectacle, avec public. C'est rapide, c'est dans 19 jours. Dans le respect des jauges fixées à 800 en intérieur et 1000 en extérieur.
Ouais, alors, oui, exactement, il y a eu ça, mais alors on nous a parlé de passe sanitaire, on ne sait pas si ça s'applique.
Non, ça ne s'applique pas. Là, je peux vous... Le passe sanitaire ne s'applique pas au théâtre, ni au cinéma, ni au restaurant.
Ça, c'est super. Après, il faut juste qu'il y ait des productions qui soient prêtes à commencer, en fait, parce qu'il n'y avait pas les répétitions, parce que justement, à force de repousser, il y a beaucoup de productions qui s'étaient entraînées pour une reprise, et finalement qui a été décalée. Donc, c'était du budget qui tombait. Et en fait, les gens se sont dit, on verra à la rentrée prochaine. Du coup, en fait, il y a une réouverture, mais il n'y a pas forcément beaucoup de travail. Et il ne faut surtout pas que cette réouverture soit un justificatif pour annuler l'année blanche, en fait. C'est surtout la plus grande crainte qu'on a aujourd'hui.
Le pass sanitaire, vous en parliez, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, là encore. Le pass sanitaire entrera en vigueur le 9 juin prochain. Format papier ou numérique via l'application Tous Anti-Covid. Il permettra de montrer si vous êtes vacciné ou non. Mais il servira en priorité pour voyager, notamment pour rentrer en France. Donc ça, c'est clair. Et il ne sera pas obligatoire pour aller au théâtre ou au restaurant. En clair, on n'entrera pas.
Il y a
du fantasme. On va pas rentrer au restaurant avec un pass sanitaire.
C'était la crainte. J'ai lu ça sur Europe 1, je crois. Donc c'est pour ça.
Oui, mais il faut écouter.
Donc
RTL. Il faut écouter RTL.
C'est la petite pub, mais c'est très compliqué. On vit dans un monde où il y a tellement de désinformation, de surinformation j'ai pas envie de faire croire que j'ai la réponse. Vous voyez ce que je veux dire?
Je suis d'accord, mais en fait, le pass sanitaire, il servira à la marge, puisque tout le monde ne va pas voyager. Et j'ai envie de vous dire que même ceux qui voyagent d'habitude, ils ont peut-être pas envie de voyager cet été, vu la complexité du voyage. S'il faut rentrer en quarantaine, faire 10 tests PCR pour la famille, etc., tu as envie peut-être de passer des vacances en France. Yanis, qu'est-ce que vous faites précisément? Parce que vous êtes et chanteur et danseur.
Alors, je fais de la comédie musicale depuis 10 ans à Paris. Donc, je fais du chant, de la danse et de la comédie dans plusieurs comédies musicales, comme Grise.
Vous avez travaillé dans quelle comédie musicale?
Grise, Cats, West Side Story, au Théâtre Mogador, au Casino de Paris. J'ai la chance d'avoir fait des gros titres et des shows de qualité depuis 10 ans, avec une extinction depuis un an et quelques mois, comme pour beaucoup de secteurs. Et justement, j'avais été...
Mais depuis 10 ans, alors que vous avez 25 ans, vous avez commencé à 15 ans?
Oui.
Ah oui, vous étiez jeune.
Quand on est passionné, on commence le plus vite possible. Surtout que je ne le savais pas à l'époque, mais ça peut s'arrêter à tout moment, comme on nous l'a montré.
Et depuis un an, vous estimez que vous êtes bien couvert financièrement?
Alors moi, j'ai l'intermittence, ce n'est pas ce que je gagne d'habitude, parce que d'habitude, je travaille 100 jours off. Donc c'était
Vous travaillez, pardon, je n'ai pas compris. 100 jours?
Je travaille 100 jours off.
Ah, 100 jours off.
100 jours de repos.
D'accord, j'avais pas compris le off. Excusez-moi.
Du coup, ce qui me permet, il n'y a pas de problème, ce qui me permettait d'avoir un salaire vraiment raisonnable. Aujourd'hui, j'ai l'intermittence parce que j'ai travaillé pour l'avoir. J'ai eu mes 507 heures et bien plus. Et du coup, en fait, j'ai été couverte à l'intermittence, qui est un salaire vraiment minimum pour vivre à Paris. C'est pas fou, mais c'est le strict minimum.
C'est-à-dire, c'est 2000 euros?
Non, oula, ça aurait été bien. Moi, j'ai 1004, mais en fait, ça...
1004 net ou brut?
1004 net.
Oui, bah, ça fait 2000 euros brut, c'est ça?
Ah, je sais pas le brut, alors là... Ouais.
Et c'est marrant, moi, personne sait le brut. Moi, je parle toujours que brut, non. Et je dois être le dernier en France à parler brut, puisque
oui,
tout le monde parle net. Donc, 1004 net, effectivement, à Paris, 1400 euros net, c'est vraiment le minimum pour vivre convenablement, j'ai envie de dire.
Oui, et puis il faut surtout pas que le public qui ne connaît pas notre métier pense que c'est un cadeau. En fait, c'est quelque chose que, si j'ai l'intermittence, c'est parce que j'ai travaillé avant
bien
pour
sûr.
L'avoir, et en fait, je l'ai tout le temps. Ce n'est pas la Covid qui me l'a offert.
Bien sûr.
Donc en fait, il faut vraiment le préciser que c'est juste un dû en fait. Et à ce jour, on nous demande de renouveler cette intermittence avec, il y a des soupçons qui diraient qu'on n'aurait pas une nouvelle année blanche. Sauf qu'on n'a pas travaillé cette année. Donc du coup, il ne faut surtout pas, je suis désolé de me répéter, mais je pense que c'est important.
Non, mais je pense que vous êtes, j'allais dire... Comment dire ça sans être le mot lobby est un peu péjoratif, mais je pense que les chanteurs, les comédiens, les artistes seront bien protégés parce que c'est assez influent dans la société française, on va le dire comme ça. Donc je pense
que j'espère que c'est compris.
Et puis
il a été souvent répété qu'on le mot non essentiel a été souvent répété. Et justement,
vous êtes essentiel. Vous êtes, la culture est essentielle.
Ça, moi, je le sais, j'ai pas besoin que les gens le sachent.
Bah, nous, on vous le dit, et on a besoin de vous, et on a besoin des artistes. Une dernière chose, parce que j'ai pas idée, lorsqu'on est comme ça, un homme dans une troupe, hein, comme vous l'êtes, chanteur et danseur professionnel, que tous les soirs vous êtes sur scène, j'ai pas idée du tout des cachets, moi, que vous recevez. On gagne bien sa vie quand on est chanteur et danseur professionnel?
Non, du tout.
Ah bon? Donc c'est une bonne carte de visite plutôt qu'autre chose peut-être?
Alors ça dépend en fait, ça dépend d'énormément de choses. Il y a vraiment plusieurs milieux dans le milieu. Moi je viens de la comédie musicale qui n'est pas... l'argent ne coule pas à flot. Depuis quelques années, on a eu beaucoup de... Comment dire? On a eu beaucoup de bâtons dans les roues entre les attentats, les plans Vigie pirates, les grèves, les gilets jaunes. Et que les gilets jaunes, on les soutient, il n'y a pas de souci. Mais on a eu beaucoup de facteurs qui ont fait que les jauges ont descendu. Du coup, la Covid, ça a été vraiment...
Donc, vous ne gagnez pas forcément très bien venu, parce qu'on imagine,
non,
comme vous
coup,
êtes dans la lumière, ces paillettes,
prix.
On se dit, ils gagnent bien leur vie, et puis finalement, non.
Ah non, du tout. Alors, ça existe quelque part. Hein. Il y a le monde de la télévision qui paye beaucoup plus. Moi, je suis vraiment du côté théâtre. Je n'ai aucune transparence, je n'ai aucune pudeur par rapport à l'argent. Donc, pour être clair, quand j'étais second rôle dans un gros théâtre comme Mogador, j'étais à 2006 brut, sachant que je faisais 8 spectacles par semaine. Ce n'est pas... C'est quelque chose de normal. C'était quelque chose de complètement normal avec le travail que je donnais. Parce que
oui, parce qu'il faut
même...
beaucoup d'énergie, évidemment, et il faut être
oui,
en forme.
C'est de l'ordre de l'âme. Enfin, ce qu'on donne sur scène, c'est pour vous qui avez l'air d'aimer le spectacle vivant, vous savez ce qui se passe. Du coup, non, ce n'est pas du tout entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Financièrement, en tout cas, ce n'est pas énorme. Par contre, humainement, c'est le cadeau d'une vie. Donc, ça va.
Et c'est peut-être le plus important, surtout quand on est très jeune. C'est-à-dire quand on est très
exactement.
Jeune, on est prêt à peut-être moins bien gagner sa vie pour apprendre,
exactement,
pour vivre des expériences.
C'est
après, ça peut être compliqué.
Oui, il ne faut juste pas tomber dans le... Justement, il faut pas que ce soit une excuse aussi pour l'arnaque. Parce
je
que
suis,
malheureusement,
bah, évidemment.
On sait que beaucoup de gens veulent économiser.
Bon, merci vraiment Yannis, c'était sympa de vous écouter. Et puis on a appris plein de choses, donc vraiment merci à
bah,
vous.
Merci
et,
à vous de
m'avoir
appelé.
On va mettre une petite musique de comédie musicale. Par exemple, il y a cette fameuse chanson « C'est tellement ça ».
Ah, l'amour. Oui, bien sûr.
Ça, c'est bien. Ça.
L'envie d'aimer.
L'envie d'aimer.
Moi, j'avais Grise pour Yannis,
ah ouais,
déjà.
Ah ça, c'est formidable.
Ah, bah, pour l'hommage.
Ouais, c'est, d'ailleurs, c'est mieux Grise, puisque vous avez joué Grise, hein, nous sommes d'accord. Vous étiez un
exactement.
Des collégiens autour de...
Oui, je faisais Kenicky, le meilleur ami, un peu compliqué.
Ah bah, bien sûr, le meilleur ami de John Travolta.
Exactement.
Bon.
Qu'on a
après,
rencontré
si,
il y a deux ans.
Si vous aimez l'envie d'aimer...
Ce sera du coup...
Je crois que les paroles sont pas les bonnes, mais c'est bien. Hein
c'est
magnifique ça. Il y a un très joli film qui s'appelle Comme tu es belle de Lisa Arzuelos. Et Valérie Benguigui, la regrettée Valérie Benguigui, chante cette chanson toute seule à son volant. Et c'est une scène qui est très réussie, très émouvante. Et le film est formidable. Comme tu es belle, c'est un film formidable. C'est un film, il y a une magie dans ce film-là. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vous allez donner un peu de nostalgie ou de mélancolie à tous ces, toutes ces personnes qui rêvent d'une soirée en discothèque, Greg Caranoni.
J'essaie de faire une petite discothèque dans les auditeurs ont la parole, voilà.
Oui, on est deux avec Laurent Tessier. Et
j'espère qu'on est un peu plus, qu'il y a plus de personnes qui nous écoutent que nous.
Franchement, ça donne envie. Laurent.
Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard pour aller plus vite. Faut-il ouvrir dès maintenant la vaccination à tous les Français? Elle sera déjà élargie à partir de samedi à tous les Français majeurs fragiles, notamment les personnes obèses, mais aussi celles souffrant de diabète ou encore d'insuffisance rénale ou cardiaque. 4 millions de Français sont concernés. Sur Twitter, Emmanuel Macron a donné rendez-vous à partir du 15 juin pour tous les adultes. Allons plus vite, c'est la demande de Jacqueline sur nos réseaux sociaux, que toutes celles et tous ceux qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire sans critère d'âge. Et pour Thierry, n'attendons pas que tous les plus âgés se rendent dans les centres de vaccination. Partagez-vous ces avis, 3210. Demain, samedi 1er mai, gros programme, c'est la journée mondiale du jardinage nu.
Tout nu et tout foncé.
Ça c'est génial. La journée internationale du
jardinage nu, créée en 2005, est de renforcer le lien entre l'humain et la nature. Donc après, en mai, fais ce qu'il te plaît.
Écoutez, moi je pense que pour les voisins, c'est une journée intéressante surtout.
Et attention aux griffures. Hein.
Évitez les orties. Hein.
Oui. Bah non, mais c'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, prenons un exemple, vous êtes en Charente par exemple, et puis vous avez c'est à côté d'une jeune femme. Oui. Qui est nu sur son tracteur. Voilà, par exemple. Et ben vous êtes le voisin, vous regardez, pourquoi pas, une jeune femme qui est en train de tondre sa pelouse nue. Ça peut arriver.
Vous n'êtes pas obligé de la regarder.
Non. Mais voilà. C'est ça que je veux dire. Là. C'est bien pour soi-même et puis c'est bien parfois pour les voisins.
Les tomates vont rougir.
Le jardinier nu, je ne sais pas. Les tomates vont rougir. Thomas, justement, puisque vous en parlez. Bonjour Thomas.
Bonjour Pascal.
Vous êtes restaurateur.
C'est ça, je suis directeur d'un restaurant dans la région lyonnaise.
Alors,
sur le calendrier, puisqu'on était sur ce sujet-là, je vais faire bondir un petit peu tous les confrères que je peux avoir, mais effectivement, moi, sur la décision qui sont prises, je trouve ça incompréhensible et je trouve ça un peu tôt. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a fermé les restaurants, on n'avait pas autant de cas par jour, on n'avait pas autant de personnes en réanimation. Et aujourd'hui, on nous dit « on peut ouvrir, tout va bien, tout se passe bien », entre guillemets. Donc c'est là où je suis un peu surpris de cette décision qui est prise à l'heure actuelle. En plus de cela, la première phase de rouverture, c'est les terrasses. Moi, aujourd'hui, sur le restaurant sur lequel je suis, la terrasse, on accueille entre 20 et, on va dire, 25 personnes, si on sert un peu tout le monde, sans mesure de distanciation sociale. Donc aujourd'hui, on va rouvrir une terrasse, mais on ne va pas être rentable parce qu'on va mettre 6 personnes, voire 10 personnes dessus, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué de rouvrir dans ces conditions-là.
Il y a quelque chose qui m'a échappé. Vous avez dit qu'on ne va pas être rentable.
Rentable.
Ah, rentable, excusez-moi.
Rentable, parce que mettre en route un restaurant avec des salariés pour 10 couverts, c'est quelque chose qui n'est pas rentable.
Non, mais là, vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire qu'il faut avoir une grande terrasse pour ouvrir.
Voilà. En plus de cela...
J'ai pensé à beaucoup de restaurateurs pour tout vous dire, mais déjà l'année dernière, qui n'avaient pas rouvert pour la raison que vous venez de dire. Parce que tout le monde n'a pas une terrasse. Parfois, c'est 80% à l'intérieur, 20% à l'extérieur. Donc ça, c'est 80-20, c'est injouable. Vous avez parfaitement raison.
Tout à fait ça. En plus de ça, il faut prendre en compte les conditions climatiques. Et en plus de ça, on va rajouter aussi ce couvre-feu à 21h, qui est alors pour moi d'une hypocrisie totale, parce qu'on nous l'a mis déjà avant. C'est-à-dire que l'État dit, on vous met un couvre-feu à 21h comme ça, nous on ne prend pas la décision de fermer administrativement, puisque c'est plus 19h, donc vous pouvez faire un service. Mais 21h, c'est impossible de faire un service à 21h. Personne ne va sortir pour manger à 18h30.
Ah, ça, c'est pas vrai, en revanche. Bah, ça, écoutez, moi, ça je pense... Je vais vous dire... je vais prendre mon cas particulier, si j'ose dire. Du lundi au jeudi, je sors à 21h, donc ça sera fini pour moi. Mais vendredi, samedi et dimanche... je pourrais aller dîner, peut-être pas à 18h30, mais à 19h30, et pour dîner et rentrer à 20h30.
Tout à fait. Mais
19h30, c'est possible. Je ne suis pas obligé d'aller à 18h30. Je ne suis pas obligé de dîner pendant 2 heures. Je peux dîner pendant 1 heure. Et là, c'est un attrait quand même. On est privé de restaurant depuis 10 mois. Donc au contraire, tu as envie d'être à table au restaurant.
Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'un restaurant
mais vous l'étiez
en
pas.
Service... Oui, non, mais je suis d'accord dans le sens où, effectivement, vous pouvez y aller à 19h30. Mmh. Sauf que quand vous avez 75 couverts ou 80 couverts qui arrivent à 19h30 en même temps, en une heure, vous ne pouvez pas servir 75 couverts, entrée, plat, dessert, boisson, apéritif.
Ben oui, mais qu'est-ce que vous proposez ?
Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais c'est pour ça que le problème du couvre-feu, c'est qu'on est sur une hypocrisie parce que, finalement, les restaurants, ils vont quasiment très peu ouvrir le soir. Moi, je pense, mon restaurant, personnellement, le restaurant sur lequel je travaille, le midi, il va fonctionner. Bon, ça va être compliqué avec cette terrasse, mais en gros, le midi, on peut fonctionner. Mais je pense aussi à tous les confrères qui sont, par exemple, les restaurants gastronomiques ou des restaurants traditionnels français qui, eux, ont une clientèle beaucoup plus loisir et qui fonctionnent beaucoup plus le soir.
Non, mais à partir du 30 juin, il n'y aura plus de couvre-feu.
Oui, à partir du 30 juin, par contre, effectivement. Mais sur cette décision du 19 mai, à la rigueur, on ouvre tout au 30 juin, on ouvre les vannes, et puis ça permet déjà de permettre de vacciner beaucoup plus. Et on ouvre les restaurants, je parle vraiment que pour les restaurants, parce que les bars, c'est vrai.
Bon, vous, vous avez un restaurant ?
Moi, je suis directeur, je suis salarié d'un restaurant. Je suis
d'accord.
D'un restaurant.
Ce restaurant, aujourd'hui, il a combien de places en terrasse ?
Concrètement, si on fait des tables de 6, on peut mettre 30 personnes. Mais si on fait des grosses tables de 6, demain, on doit faire la distanciation puisque c'est des tables de 2, de 3, on met 20 couverts, même pas.
Non, mais c'est vrai que c'est pas simple. J'imagine que c'est pas simple, bien évidemment. Alors, on marque une pause et puis on voit déjà si les chiffres vont baisser. Peut-être qu'on pourra accélérer ce processus de déconfinement. On espère que ce sera dans ce sens-là et que ce ne sera pas dans le sens inverse. A tout de suite.
Tout ça.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous étions donc avec Thomas qui est restaurateur. On va être avec Bertrand. Bonjour Bertrand qui est directeur d'un club gym. Et alors ça aussi, c'est les grands oubliés, les clubs de sport. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Alors vous, les clubs de sport, c'est, je pense, le 9 juin, hein, c'est bien cela, réouverture des salles de sport et élargissement de la pratique sportive au sport de contact en plein air et sans contact en intérieur dans le respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu d'activité. Nous sommes d'accord ?
Oui, c'est ce qui est annoncé.
C'est pas le 19 mai, a priori, vous.
Hein. Ah non, nous, c'est le 9 juin.
C'est le 9 juin. Donc il va falloir encore patienter. C'est ça qui est, pour tout vous dire, pourquoi un théâtre et un cinéma rouvrent le 19 mai et pourquoi une salle de sport, où a priori, parce que pour être passé dans les salles de sport, le protocole est plus strict et où tu croises moins de gens.
Ouais, mais c'est pas si simple que ça, parce que si on reste dans la logique, et il n'y a pas de raison pour le moment de le mettre en doute, si on reste dans la logique que les endroits confinés, où on accueille beaucoup de monde, où il y a des fois une aération qui n'est peut-être pas tout à fait optimale, et où les gens doivent enlever le masque, et en plus, ben, vous avez des projections puisque vous entraînez, donc la cadence respiratoire est accélérée. Eh bien, écoutez, dans cette logique-là, on peut comprendre qu'on rouvre un peu plus tard, oui.
Ah bon, bah, écoutez, moi, je voulais vous défendre, mais si vous êtes content, il n'y a pas de problème, Bertrand. Hein. Là, franchement, je voulais faire preuve un peu d'empathie, mais si vous dites, si vous préférez vivre avec les aides, il n'y a aucun souci.
Non, ce n'est pas le cas du tout, mais il faut être pragmatique. Si cette logique-là, elle est...
Mais il y avait des masques pour faire du sport. Est-ce que vous savez...
Alors, nous y voilà, justement.
Il y a des masques pour faire du sport. Et
non,
le gouvernement...
Pascal.
Non
Pascal, non, moi je vous dis non. Je vous
ah
dis
bon
non. Je vous dis ouvrir les salles avec l'obligation, une obligation de plus à mettre un masque pendant l'entraînement, mais c'est injouable.
Vous dites mais c'est des masques pour faire du sport. Moi, je les ai vus. Ils sont comment dire construits à cet effet, fabriqués à cet effet.
Pascal, vous les avez essayés?
Bah oui, j'en ai essayé un. Oui. Vous trouvez que c'est pas pratique?
Vous avez fait du sport avec?
Non, je l'ai essayé, on me l'a montré.
Ouais. Alors, moi, le masque dont vous parlez, je sais qui vous l'a montré, je sais lequel que vous avez essayé. C'est un masque qui est super bien à porter tous les jours, comme ça. Il est très confortable et tout. Moi, j'en ai acheté une trentaine et je l'ai fait essayer à toute mon équipe. En situation. Et je peux vous dire que le résultat est sans appel. Moi, je ne me vois pas imposer ça à mes adhérents. Parce que, écoutez,
donc, vous auriez préféré, par exemple, vous préférez ne rouvrir que le 9 juin libre, mais si on vous disait entre le 19 mai et le 9 juin, vous êtes ouvert avec ces masques obligatoires, vous préférez attendre le 9 juin?
Ah ben, ça n'engage que moi. Hein. Mais moi, je vais vous dire, mais sans aucun l'ombre...
D'accord. Non, mais je vous fais confiance. Honnêtement, je vous fais confiance. Vous êtes un professionnel. Moi, vous avez raison. On me l'a montré. On m'a dit, c'est bien. Bon, là, je vous fais confiance. En plus, si tout le monde était d'accord avec vous dans votre équipe?
Ah oui, tout le monde était d'accord avec
vous. C'est vous qui êtes des professionnels. Moi, là, il n'y a même pas de discussion.
Attendez, il y a peut-être aussi... Regardez, il y a peut-être aussi une chose dont on ne parle pas. C'est que vous parlez des adhérents. Mais moi, je vais vous parler aussi de mes coachs. Le coach, quand vous lui dites qu'on ne fait pas des cours de vidéo, que vous avez du monde sur le terrain, qui pratique une activité, qui participe avec les adhérents, imaginez le coach donner des consignes, parler au micro, avec le masque, enquiller 2 heures, 3 heures de cours collectifs d'affilée. Mais comment on fait? C'est pas possible. Matériellement, au niveau de ce port de masque, c'est pas possible. Et Pascal, vous savez comment il a été certifié masque sportif? Et vous, est-ce que vous connaissez le protocole?
Bah non, je connais pas précisément le protocole, non.
Alors, moi, je vais vous le dire, c'est quand même assez étonnant qu'on ait pu qualifier ça de masque sportif. Il a été essayé pendant 10 minutes à effort modéré sur surface plane. Voilà le protocole de spécification d'un masque sportif.
Est-ce bon, vous m'avez convaincu, Bertrand. Vous m'avez convaincu. Ouais, on va attendre donc le 9 juin pour rouvrir.
Ouais, Le problème, Pascal, là, c'est pareil. Hein. Moi, je vous le disais que, c'est sûr que si on nous avait ouvert avant avec le masque, avec le bouton et tout, les gens seraient parvenus sur le club de suite. C'est
non, certain. Vous m'avez convaincu.
Mais le problème, c'est qu'on va avoir un autre problème aussi le 9 juin, c'est qu'on va nous coller des jauges. Donc, si on est à 35% au niveau de l'effectif, là, on avait déjà diminué quasiment de moitié, mais là, ça va être très difficile pour nous. Parce que, vous voyez, c'est une spirale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas accueillir, je parle des cours collectifs, vous ne pouvez pas accueillir autant de personnes que vous souhaitez, vous êtes obligé de multiplier les cours collectifs, on est d'accord?
Bien sûr.
Pour, si vous accueillez 100 personnes par jour, vous faites 2 cours avec 50 personnes, mais quand vous tombez à 25, ils vont faire 4 cours. Sinon, vos adhérents disent « bon, t'es sympa, mais nous, on ne vient pas parce qu'il n'y a plus les cours ». Donc, vous multipliez les charges de personnel et puis la fatigue aussi. Donc, c'est très contraignant pour nous. Bon, on est content de rouvrir, hein, mais surtout, il faudrait que le gouvernement ne nous lâche pas. Parce que juin, juillet, août, c'est pas là où on fait les meilleurs chiffres d'affaires. Loin de là. C'est même plutôt très désert dans les clubs de sport en juin, juillet, août. Donc, il faudrait pas qu'ils nous lâchent au niveau des aides.
Eh ben merci. Merci beaucoup de ce témoignage, Bertrand. Merci beaucoup, avec beaucoup d'honnêteté et de lucidité aussi. Merci. Et dans une seconde, nous serons avec Charlotte.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier. Vous pourrez réagir à la cérémonie d'hommage national en mémoire de Stéphanie Monfermé ce matin, la fonctionnaire de police assassinée il y a une semaine par un terroriste islamiste au sein du commissariat de Rambouillet dans les Yvelines. Son portrait en noir et blanc a été solennellement porté par des policiers. Le Premier ministre Jean Castex a pris la parole.
Le terrorisme islamiste n'est rien d'autre qu'un fanatisme sanguinaire. Ce fanatisme nous a déclaré la guerre, mais c'est une guerre de lâches. Seul un lâche peut s'en prendre à une femme qui, conformément à son statut d'agent administratif, ne portait pas d'armes.
Sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Karine nous parle de sa grande émotion, une mère de famille lâchement assassinée. Que tous les politiques se bougent, demande Fred. À chaque fois, on promet des moyens, une nouvelle loi antiterroriste qui arrive et un drame arrive plus tard. Stop, on va tous devenir fous.
Merci Laurent. On est donc avec Charlotte qui est étudiante et qui habite Cannes. Et je crois que Charlotte nous a déjà appelé ces derniers
temps.
Bonjour
Pascal. Mais bonjour oui, Pascal.
Moi j'aime bien
comment
quand.
Allez-vous?
Ben écoutez, ça va parce que j'aime bien entendre des voix un peu jeunes parfois.
Ça fait toujours plaisir.
Ben évidemment, Charlotte. Bon, bah, comment écoutez, ça va? D'abord, vous êtes en train de préparer, j'imagine, vos examens.
Alors, les examens sont finis. Donc, ça nous a un peu tous fait rire.
C'est fini les examens maintenant le 1er mai. Effectivement, oui, l'époque a changé. Donc là, vous êtes en vacances?
Ah oui, enfin, on commence le travail. Ça y est, la saison commence sur la Côte d'Azur. Donc,
non, mais pourquoi, attendez, pourquoi les examens? Vous étiez en quoi? En quelle...
Je suis en troisième année de licence.
Donc, en troisième année de licence. Mais c'est exceptionnel que les examens soient passés?
Ah non, depuis trois ans, moi déjà mi-mai, je finissais. Hein, j'étais
mais là, on n'est plus mi-mai, vous êtes le...
On est le 1er mai, mais je pense que le confinement a un peu...
Mais la saison, ça dure combien de temps, la saison étudiante?
Bah là, nous, la saison pour les jobs étudiants, en tout cas sur la Côte d'Azur...
Non, mais les examens, la saison...
En fait, c'est du contrôle continu, donc en fait...
Il n'y a plus d'examens de fin d'année en troisième année de licence?
Ça dépend, il y a le choix, mais en tout cas, nous, en troisième année de licence de langue étrangère appliquée dans le domaine juridique,
oui.
On a commencé donc les premiers partiels, entre guillemets, si on peut dire, c'était mi-semestre, donc vers février, et on en a re-eu là.
D'accord.
C'est un contrôle
continu. Et la saison des étudiants donc commence 15 octobre?
On commence des partiels, les premiers partiels de l'année, en tout cas de l'année de troisième année, ils sont à peu près en octobre, après il y en a encore en décembre, février.
Mais au-delà des partiels, le premier cours c'est mi-octobre ou début octobre?
Ah non, on en a eu qui commençait mi-septembre quand même.
Ah quand même, d'accord, septembre.
Ah oui, attention.
Donc, et donc de septembre jusqu'en fin avril, et donc mai-juin maintenant c'est terminé. Bon,
oui.
Bah écoutez,
c'est une
nouvelle disposition. Donc effectivement, j'ai dû perdre quelque chose en route. Alors, c'est pas pour ça que vous nous appelez pour les discothèques.
Oui, en fait, moi déjà, je suis assez contente quand même du calendrier qui a été évoqué. Je comprends tout à fait l'auditeur qui était juste avant moi par rapport aux salles de sport qui réouvrent, mais qui vont être très compliquées. Mais moi, en fait, surtout, je compatis énormément avec les discothèques parce que, bon, la Côte d'Azur, on est un peu connu pour ça, si l'on peut dire, et, pour la fête, etc. Et depuis qu'il y a eu l'annonce depuis que les discothèques sont fermées, donc depuis 15 mois, il y a eu des dérives. En fait, certains bars se sont permis, si l'on peut dire, de fermer beaucoup plus tard. Et en fait, on était agglutinés tous les uns contre les autres, voire même pire qu'en discothèque. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune mesure de prise et au final, on se rendait compte que quand les bars fermaient, les gens continuaient à rester tous ensemble, donc à rester agglutinés dans la rue. Donc, sachant que les discothèques ont des mesures qui sont prises depuis quand même un certain nombre d'années sur l'aération, etc., je ne comprends pas qu'on puisse laisser libre cours aux bars ou même là, du fait que les bars et toute la restauration étaient fermés, libre cours à des soirées qui n'ont pas été contrôlées. On en a même eu la preuve avec ces influenceurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ces influenceurs qui ont été dénoncés parce qu'ils faisaient une soirée clandestine avec un certain nombre de personnes, je crois qu'ils étaient 40 dans la maison. Donc je comprends pas, donc 40 personnes.
Donc vous auriez voulu que les discothèques rouvrent?
Oui, attendez, vous n'imaginez, nous on a quand même, enfin, la Côte
d'Azur, au moins c'est encadré, il y a un protocole, c'est ce que vous voulez dire?
Tout à fait, voilà, c'est contrôlé parce qu'ils ont, enfin je pense que j'essaye de me mettre à la place, parce que je ne travaille pas là-dedans, mais j'essaye de me mettre à la place de patron, même de salarié de discothèque. Vous imaginez bien qu'ils ont tellement pas peur, mais comment dire, peur qu'il y ait un autre problème, qu'il y ait un autre confinement dû au fait qu'il y ait des agglutinations dans les discothèques ou dans les bars ou dans la rue ou quoi que ce soit. Ils vont faire tout pour que tout se passe bien. Et ça fait 15 mois qu'ils sont fermés,
parce
qu'on laisse libre cours à des bars. Moi, j'ai vu des bars à Cannes, mais vraiment, où c'était sans masque, une agglutination totale, les uns collés aux autres, et voire même plus de personnes qui peuvent être accueillies en discothèque. Et on laisse les discothèques encore une fois de côté ? Je ne comprends pas.
On en a parlé, vous avez parfaitement raison. Et on avait tout à l'heure un gérant de discothèque, c'est bien également d'avoir, j'allais dire, un client, une cliente en l'espèce. Vous aimez bien les discothèques ?
Ben, moi, écoutez, j'ai 23 ans, je sors depuis que j'ai 18 ans en discothèque, que ce soit sur Paris ou sur la Côte d'Azur, et j'ai toujours aimé ça parce que voilà, enfin, on danse, on est tous ensemble. Non, mais
c'est le principe de la discothèque.
À Paris, au bus Palladium, ils me disent, à mon âge.
Ah, ben, le bus Palladium, nous avons connu. Vous allez où aujourd'hui? C'est quoi les boîtes à la mode aujourd'hui dans Paris?
Bah, écoutez, moi, j'allais au bus Palladium aussi, pour vous dire la vérité, Pascal. Donc, voilà. Mais j'allais aussi au Carmen, j'allais au VIP Room. Bah, Jean Rock a dû quand même fermer.
Jean Rock, c'est le VIP Room.
Oui, Jean Rock a dû quand même fermer un VIP Room, dû au fait de cette crise du Covid. C'est quand même.
Il y a moins de boîtes de nuit qu'il y avait il y a 30 ans. Je crois que ça a été diminué
parce que les
par.
Les bars ont pris la place.
Voilà, c'est ça.
Fait.
Ça a diminué par 3 ou 4 déjà, mais là, ça ne va pas arranger l'affaire. Mais c'est vrai que c'est un lieu de convivialité et puis, disons, lieu de rencontre. De rencontre.
Voilà,
c'est là que
rencontre.
Parfois, j'allais dire, on drague. L'expression est un peu triviale, mais elle
non,
est une réalité. Bonjour mademoiselle, je vous offre un petit verre, etc. Ouais. Je vous regardais danser depuis tout à l'heure.
Ça arrive, vous savez que
ça. À vous draguer, les garçons?
Non, moi non, personnellement non.
Ah, non ouais, j'ai jamais eu cette chance qu'une fille vienne vers moi pour me dire, monsieur, je regarde danser, ça c'est jamais arrivé.
Mais les temps évoluent, c'est même vous qui l'avez dit tout à l'heure.
Ah, oui, bien sûr. Bien sûr, la société évolue, mais bon, c'est vrai que c'est...
Mais c'est vrai qu'après, dans la culture qu'on a, c'est vrai que c'est plus agréable quand même, même pour une femme,
voilà.
Que ce soit un homme.
Et puis maintenant, je vais plus en boîte de nuit, parce que vous me voyez... voilà, sur.
Mais il y a encore au bus Palladium.
Mais non, il y a. Alors, je vais vous dire, il y a un temps pour tout, Charlotte. Et quand j'avais 22 ou 23 ans, justement, je voyais parfois... j'allais dire des gens de mon âge dans les boîtes de nuit et je trouvais ça un peu pathétique pour tout vous dire. Il y a un âge pour tout.
Moi,
bah, vous me voyez en train de danser sur la piste à mon âge, enfin
mais
avec des filles de 20 ans autour de moi. Mais oui, mais il y a un âge pour tout. C'est normal
non, mais,
d'ailleurs.
Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce genre de rencontre, ce genre de discussion.
Mais vous voyez, alors je suis en train de parler avec vous et il y a quelqu'un qui m'envoie un texto, arrête de draguer à l'antenne. Non mais franchement, vous voyez, je suis en train de parler avec Charlotte et tout de suite il y a des gens qui ont un mauvais esprit. C'est fou, hein. Mais bien sûr, je dirais pas qu'il m'a envoyé ça parce que c'est un journaliste connu, mais franchement, c'est pas bien.
Qui travaille où ?
N'importe quoi.
Oui. Au bus Palladium.
Oui.
Écoutez, ça fait des années que j'y vais. Je vous dis, j'ai fêté mes 18 ans là-bas. Ça fait.
Mais c'est, vous avez l'âge pour sortir dans les boîtes de nuit, mais il n'y a pas de.
Laissez-moi finir, Pascal.
Oui.
Ce que je vous dis, c'est que il y avait des gens qui étaient de votre âge, des gens même, voire même plus âgés, qui y allaient, mais pas
plus âgés. Et vous, ça vous dites pas, il serait mieux chez lui à regarder lire un livre.
Mais non, parce que moi, je suis dans l'acceptation, c'est-à-dire que
d'accord.
Si vous voulez aller
moi,
en boîte
venir,
de nuit,
alors.
Vous y allez. Mais voilà, mais il faut.
Oh,
en
okay,
plus, Charlotte. Au bus Palladium, on s'est.
Une petite chanson, Charlotte. Une petite chanson pour
vous
finir.
Vous connaissez
pour la boîte de nuit.
Le duo féminin Brigitte.
Brigitte.
Ouais. Elles évoquent le Palladium justement dans une de leurs chansons.
Toi et moi.
C'est bien ça. Hein.
À vos souhaits.
Bon, Charlotte, merci. Hein, c'était sympa de vous avoir. Croyez-moi.
Merci Pascal, à bientôt.
Merci beaucoup, Charlotte. À plus tard.
À plus tard.
Je t'en ferai des calembours et des comptines pour l'histoire. Tomber de chat et danser là si tu chiales. Je coule avec toi, viens. On danse, ça se verra.
Ça, c'est vraiment bien. Redites le titre et l'interprète.
Brigitte, et le titre, c'est Palladium, tout simplement.
Ouais, c'est bien, Brigitte. Hein.
Olivier Bois a l'air conquis.
C'est magnifique.
Olivier, il est venu déjà sur son vélo aujourd'hui, ce qui est quand même important.
Ouais, je suis venu à vélo, détrompez-vous,
oui,
Pascal.
J'ai dit en vélo.
Non.
Oui, ça, c'est pas bien. 13h58, à vélo, vous avez raison. À vélo, et il est 14h dans une seconde, le flash, la pause.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Olivier Bois, le flash.
L'évolution du calendrier de la vaccination d'abord. Dès demain, les 4 millions de Français les plus à risque peuvent se faire vacciner. Tous les adultes sans limite d'âge qui souffrent d'obésité ou de comorbidité comme le diabète, l'hypertension ou encore l'insuffisance cardiaque. À partir du 15 mai, tous les plus de 50 ans pourront être vaccinés. Et enfin, à partir du 15 juin, ce sera tous les adultes sans aucune restriction. D'ici là, la France va desserrer l'étau. Un calendrier de déconfinement pragmatique et prudent, selon Gabriel Attal. natal qui prend en compte surtout, selon le porte-parole du gouvernement, l'envie des Français de retrouver une vie un peu plus normale. En deux mots, on le rappelle, hein, ce calendrier, 19 mai, réouverture des terrasses et des commerces, couvre-feu 21h, 9 juin, les restaurants rouverts en salle avec couvre-feu à 23h et enfin le 30 juin, levée de l'essentiel des restrictions, à commencer donc par ce couvre-feu. Tous les religieux enlevés en Haïti ont été relâchés, un prêtre et une religieuse française étaient retenus, les autorités accusèrent un groupe criminel de Port-au-Prince, la capitale, coutumier de ces enlèvements crapuleux. Une centaine de personnes ont assisté ce matin à Rambouillet à l'hommage national en mémoire de Stéphanie Monfermet, tuée par un terroriste vendredi dernier. Elle a été décorée à titre posthume de la Légion d'honneur. La météo de demain, pluvieux dans le sud du Pays Basque à la Méditerranée, plus ensoleillé au nord d'une diagonale Bordeaux-Strasbourg. 6 à 9 degrés demain matin sur la moitié nord, entre 8 et 15 degrés dans le sud.
À 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
À 14h02, on va voir Cyprien Sini qui va nous donner le programme. Et la semaine dernière, je m'étonnais que Cyprien Sini ne soit pas passé par le studio. Et pour cause.
Et oui, nous sommes reposés la semaine dernière.
Et oui, il n'y avait pas l'émission à 19h15.
C'est la deuxième fois de l'histoire en deux ans.
Bah,
de l'histoire qu'il y a deux ans. Mais bon,
de l'histoire de la télévision, de la radio française.
On a fait une petite pause.
Bonjour Monsieur Sini.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous?
Ah bah, très bien.
Ça me fait plaisir. Restez avec nous, on va parler avec un auditeur. D'abord, parce que c'est d'abord l'émission des auditeurs. Ah bah, on ne les a pas eu depuis 3-4 minutes. Et vous allez nous donner après le programme. Régis est là. Bonjour Régis.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes gérant d'une discothèque à Pontivy, dans le Morbihan.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et vice-président des discothèques pour le syndicat UMI 56.
Bon. Comment s'appelle votre discothèque?
Le Missile.
Très bien.
Parce que vous connaissez
Non, mais au moins ça fait de la promo pour quand ça rouvrira. Oui, le Missile à Pontivy.
Bonne question. Vous devriez animer les auditeurs.
Mais j'y songe.
Le Missile. Bon, le Missile est fermé depuis le 17 mars 2020.
Depuis le premier soir d'annonce, le soir où les bars ont eu le droit d'ouvrir jusqu'à minuit, nous on était déjà fermés.
Ouais. Bon. C'était un samedi, je me souviens.
Et oui. Exactement. Vous avez reçu des aides sans doute depuis un an?
Oui, il a fallu batailler dur pour avoir les premières aides. Les premières aides, nous on les a touchées que courant octobre.
Et aujourd'hui, vous n'avez pas de perspective, c'est ça qui nous étonne le plus. Quelle est votre explication?
Alors, l'explication, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'incohérences, puisque tout le monde a le droit à un calendrier, sauf nous. Donc, on s'interroge tous.
C'est ça qui est très étrange. À mon avis, vous allez avoir un petit calendrier ces prochaines heures. Parce que d'abord, vous en parlez beaucoup. Sur les médias, c'est très présent. Simplement, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire, vous, nouvelle saison blanche et vous fermez juillet et août?
Je ne sais pas, mais le problème, c'est que dans le calendrier qu'ils ont établi sur les quatre dates qu'ils ont mis en place, on a des incohérences. C'est-à-dire que on va dire les discothèques, on les laisse fermer, mais on va pouvoir autoriser 1000 personnes en intérieur.
Oui, mais bien
sûr. C'est totalement incohérent.
Bien sûr. 1000 personnes. Alors, il y a, par exemple, le 9 juin, possibilité d'accueillir jusqu'à 5000 personnes dans les lieux de culture et les établissements sportifs. Donc ça, c'est plutôt, on n'est même pas précisé, c'est conditionné à un pass sanitaire, hein, les établissements sportifs, donc alors, ça peut être un stade de foot.
Par exemple, est-ce que vous seriez d'accord pour faire un pass sanitaire très strict avec vaccin obligatoire ou test PCR à l'entrée, test antigénique à l'entrée?
Si demain, l'État est capable de fournir les doses pour tout le monde, là, tout de suite, dans la minute... pourquoi pas, mais le problème c'est que on a ce qui était normal, il fallait prioriser les vaccinations, d'abord les plus anciens, sauf qu'aujourd'hui les moins de 50 ans, de 18 à 50 ans, pas de vaccination sauf cas particulier, hein. Donc ça veut dire que notre clientèle n'est pas vaccinée pour les trois quarts, pour 80%, donc c'est quand même compliqué.
Parce que le concept de la boîte de nuit, il est quand même particulier. C'est-à-dire que vous êtes tous serrés, on danse, on chante, donc on éructe de la salive.
On éructe.
Sans parler des bisous, quand on arrive à trouver une copine ou un copain.
On éructe donc, pas, on éructe pas.
Vous êtes quand même un cluster parfait, donc c'est vrai que c'est compliqué.
Je vous propose
quoi.
De ne pas passer une soirée en boîte de nuit avec Cyprien Sini, puisqu'il éructe. On éructe pas, on danse peut-être.
Non, on crie parce qu'il y a la musique forte. Vous comprenez?
Oui.
Il s'enflamme tous les soirs.
Mais
oui.
Non, mais il y a, par exemple, dans, je vois qu'il y a quelque chose qui pourrait se rapprocher de vous et qui pourrait montrer une forme d'incohérence. Le 9 juin, il y aura la réouverture des salons et foires d'exposition avec la possibilité d'accueillir jusqu'à 5000 personnes dans le respect de jauges et protocoles. Bon, moi, je vois un parallèle entre une boîte de nuit et un salon et une foire d'exposition.
Ah bon ?
Bah oui, un peu.
Ah, quand même, enfin...
Bah, vous voyez pas de parallèle.
Bah, c'est-à-dire que dans un salon, dans une fois de plus, on n'est pas en train de danser collé serré, d'essayer de se faire des bisous et de hurler dans l'oreille de l'autre. Quoi,
d'abord,
vous voyez ce que je veux dire ?
Tout le monde ne danse pas dans une boîte de nuit, tout le monde ne se fait pas de bisous. Il y a aussi des lieux où on parle, il y a des lieux où on...
Non, dans une boîte de nuit, on parle, la musique est forte par définition.
Oui, mais la musique, c'est pas la musique, transmet pas le virus, enfin.
Non,
monsieur.
Mais pour parler plus fort, on est obligé de hurler dans le tout proche de la tête de l'autre. Enfin, je sais que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé en discothèque, mon cher Pascal. À l'époque, ça s'appelait dancing d'ailleurs, mais voilà.
Il est désagréable, c'est ça, il y peut rien, il est comme ça. Bon, Régis, on sourit, mais vous, par exemple, est-ce que vous êtes en danger de survie de votre activité ? Est-ce que vous imaginez déposer le bilan, changer d'activité, ou est-ce que vous pouvez encore patienter ?
C'est-à-dire qu'on a les aides pour le moment. Aujourd'hui, on a 10 000 euros, sauf qu'au départ, on avait juste 15 000 euros. Donc, on est descendu de 5 000 euros par mois. Donc, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas assez, en fait. Pourquoi c'est pas assez ? On arrive à payer les charges courantes, on va dire. Sauf qu'on a tous les reports. Je vais donner l'exemple de l'URSSAF salariale. Moi, j'ai demandé à ma gestionnaire des payes à combien on était de reports à ce jour, depuis la fermeture. On a dépassé les 20 000 euros. Mais ça, va falloir le payer après.
Bah, merci Régis de votre témoignage. On va marquer une nouvelle pause et l'ami Cini qui nous fait l'amitié de venir chaque vendredi quand il y a une émission, bien sûr.
Oh, c'est donc chaque vendredi.
Ah, oui. Bien sûr, bien sûr. Et Stéphane Carpentier est là également.
Absolument.
Il va nous donner le programme et notamment, on avait une question pour briller en société qu'on avait mis de côté cette semaine.
Oui, je vous laisserai la donner à Cyprien tout à l'heure du coup.
Mais non, j'ai oublié justement.
Moi aussi. Alors, retrouvez-la, ça m'arrange parce qu'il m'en manque une.
C'est vrai, bien sûr. C'était quoi notre question pour briller en société, c'était vraiment c'était excellent ce que nous avions trouvé.
Bah comme toujours.
La pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Cyprien Sini me demandait quand est-ce qu'on rouvre les piscines.
Oui, pour
alors,
nager.
Je pense que les piscines, oui, il faut effectivement, une piscine, c'est fait pour nager. Réouverture des établissements sportifs de plein air. Donc ça, bon, si vous avez une piscine en plein air, elle est rouverte.
Ouais, vous savez, c'est pas courant dans le nord de la France. Hein.
Pourquoi ?
Bah, en général, à Paris, en région parisienne, en Île-de-France et même en Normandie.
Alors, je pense que le 9 juin, je vois réouverture des salles des sports et élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein air.
Ah bah, donc 9 juin ou plus tard.
Donc je pense que c'est 9 juin pour vous, les piscines, parce que vous faites de la natation.
Bah, j'essaye pour entretenir.
Bon, le programme de ce soir, ami.
Alors ce soir, on vous emmènera sur une enquête passionnante, on vous emmènera dans les coulisses des recherches sur l'affaire Fourniret qui ont eu lieu cette semaine. On verra comment travaille la police et vous allez voir, on va découvrir des choses fascinantes. Deuxième chose intéressante de la soirée, figurez-vous qu'à chaque déconfinement, il y a un phénomène très particulier, il y a l'abandon des animaux. C'est-à-dire que des gens adoptent des animaux au moment du confinement pour ne pas se sentir seul, et il y a un pic d'abandon au moment des déconfinements. Donc on va en parler ce soir.
Ouais, ça c'est pas bien.
Bah non, c'est pas bien. Bah, oui, on va éclaircir ce sujet, on va allumer la lumière sur ce sujet. Puis on parlera du loser de la semaine, évidemment, un député La République En Marche qui a avancé des chiffres qui n'étaient pas les bons. Voilà, fake news ou simple erreur. Non. Et puis on parlera également, on prendra des nouvelles également de quelqu'un qui est en train de courir le long du Nil. On l'avait déjà eu une première fois.
Du Nil, le fleuve.
Le fleuve. Il court le long du Nil pour une cause humanitaire. On avait eu de ses nouvelles avant son départ. Là, il court depuis un moment. Il lui arrive plein de choses. On l'aura au téléphone.
Eh bien, merci. Vous serez avec Stéphane Carpentier, avec Brice Dugénie peut-être.
Brice Dugénie sera là. Et Alice Moreno, du service police-justice d'RTL, nous éclairera.
19h15, 20h.
Et un cadeau.
Et si je peux racoler un petit peu, c'est ce que j'allais dire. Il y a un cadeau formidable.
Et Greg Caradoni, c'est vous qui réalisez.
Absolument.
Et c'est lui qui offre le cadeau. Une semaine de vacances.
14h11.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il y aura évidemment Laurent Tessier, bien sûr, qui sera là. Alain est là pour le calendrier et Alain est vendeur de chaussures. Bonjour Alain.
Oui, bonjour monsieur Pro. Bah, écoutez, je suis très content de passer à votre antenne, mais moi je ne suis pas content.
Vous rouvrez le 19 mai.
Eh ben voilà, oui, après 2 mois, parce que comme je suis dans le Pas-de-Calais, on a fermé nos boutiques 15 jours avant toute la France, et on était déjà fermé les samedis. Donc là, ça va faire, encore une fois, 2 mois. Donc on va friser les 6 mois de confinement depuis le début de la crise.
Bah oui, j'entends bien, mais pourquoi vous n'êtes pas content ? Vous n'êtes pas content de ce qui s'est passé avant ou vous n'êtes pas content de ce qui va se passer maintenant ?
Alors, je ne suis pas content parce qu'on va rouvrir que le 19 mai. Moi, j'aurais aimé ouvrir quand même début mai. Parce qu'on arrive à une situation dramatique, notamment pour les enfants. Mmh. Si je peux faire un petit raccourci avec les auditeurs précédents, des boîtes, moi, c'est les boîtes de nuit, non, moi, c'est des boîtes de chaussures. Mais j'en ai plein ma réserve de boîtes de chaussures. Notre problème à nous, c'est que les fournisseurs continuent à livrer. La marchandise rentre dans le magasin. J'ai pas de clients, je suis obligé de la stocker. Et cette marchandise, je la paye avec quoi ? Je la paye avec mes clients.
Mais vous avez payé le stock ou vous avez échelonné ?
Ah ben non, mes fournisseurs, parce que eux, ils ont besoin aussi de vendre la marchandise que j'ai commandée. C'est des fournisseurs avec qui on travaille depuis assez longtemps, donc ils nous font confiance, donc ils nous échelonnent la marchandise. Mais encore une fois, c'est des reports. C'est des reports et des reports.
Bien sûr.
Voilà, donc ça ne peut pas durer une éternité comme ça. Je suis dans une barque avec plein de trous. De temps en temps, on nous donne un petit bouchon pour boucher un trou. Ça fait un an que je suis en train d'écoper pour vider l'eau. J'ai fait un prêt PGE énorme. Ça veut dire que j'ai eu une nouvelle barque avec un peu moins de trous. Mais dans quelques, je sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans, on va me reprendre ma barque, on va me redonner l'autre qui est pleine de trous, mais je vais jamais m'en sortir. Je vais jamais m'en sortir, c'est pas possible, cette marchandise. Moi, je la fais pas pousser dans mon jardin, hein. Mes chaussures, elles poussent pas dans le jardin, ou je fais pas un élevage de chaussures.
Est-ce que vous avez tenté de vendre par Internet ?
Alors oui. Alors ça, écoutez, ça me fait doucement rigoler, parce que tout le monde dit, il faut faire le click and collect, le fameux click and collect. Alors ça
c'est pas tout à fait la même chose, Internet et Click and Collect. Internet, c'est... les gens viennent même pas chercher chez vous la paire de chaussures, vous l'envoyez par la poste, j'imagine.
Oui, comme un boulon de 12 ou une boîte de conserve, quoi. C'est pareil.
Si vous voulez.
Oui, mais sauf que c'est des chaussures, ça s'essaye. Mon métier, c'est vendeur de chaussures. Mmh. Et là, je vais faire un raccourci, vous me tendez une perche, je vais vous parler des enfants. Vous savez, on vient de faire une opération avec tous les détaillants de France. On a envoyé chacun 2 colis à messieurs Castex et messieurs Le Maire avec des chaussures usagées à l'intérieur. Mmh. Voilà, pour leur dire de la porter et puis de voir ce que ça fait quand on porte une chaussure usagée ou une chaussure trop petite. Parce que moi, j'ai même mis des chaussures d'enfants. En leur disant, écoutez, chargez-vous à vos enfants ou à petits-enfants, vos petits-enfants, de leur expliquer que s'ils ont mal aux pieds ou que si leurs chaussures elles sont trop petites ou si elles sont usées, mais que c'est pas essentiel et puis qu'ils vont devoir attendre la reprise. Mmh. Voilà. Alors un adulte, il peut encore comprendre, mais je sais pas, vous avez des enfants, des petits-enfants.
J'ai pas de petits-enfants encore. Mais les ados, je sais que ça prend 2 pointures ou quasiment tous les 6 mois. Voilà. Enfin, une pointure tous les 6 mois.
Moi, j'ai eu l'énorme plaisir d'avoir un petit garçon hier. Petit Victor. Ah oui.
Écoutez, c'est bien, il faut lui souhaiter. Mais voilà. Dites-moi, vous êtes. Ah non, vous avez 60 ans quand même. Effectivement, c'est l'âge. C'est l'âge d'avoir. C'est l'âge d'avoir. C'est votre premier petit enfant ?
J'ai une petite Élise extraordinaire. Mmh. Et un petit Victor. Donc,
En plus, c'est vraiment des jolis prénoms, Victor et Élise.
Oui, écoutez, j'espère que ça sera mieux qu'en ce moment, hein. Je leur souhaite.
Oui, mais c'est vrai que parfois, c'est drôle ce que vous dites, parce que parfois, les parents que nous sommes, et faut pas dire ça, parce que la vie est toujours plus forte que tout, mais les parents que nous sommes, parfois, on se dit, est-ce qu'on referait aujourd'hui des enfants, et est-ce qu'on les projetterait dans le monde qui s'annonce? Et il y a discussion. Quand j'avais 25 ans, je ne me suis jamais posé cette question. Et aujourd'hui, à 57 ans, tu te dis, est-ce que la vie qui arrive va être aussi belle que celle que nous avons connue ?
Écoutez, L'homme, il s'est toujours adapté. Donc, je suppose que nos enfants vont s'adapter comme nous, on s'est adapté.
C'est mais oui, la même pas faux, pas faux, vous avez raison.
Sauf que...
Et puis, il y a des points positifs, notamment la médecine qui a progressé, voilà. le niveau de vie qui a pu progresser parfois.
Vous savez, j'ai deux filles. Mais c'est mes parents qui ont créé l'entreprise. L'entreprise a passé 60 ans. On a ouvert en 1958. Bon, moi, j'ai toujours traîné dans l'entreprise. J'ai terminé mes études, j'avais 24 ans. Bon, bah, j'étais destiné à reprendre le magasin de chaussures. Et puis moi, les gens, c'est ma vie, quoi. J'aime bien les gens. Voilà. Bon, bref, ça n'a pas été un problème. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai un devoir de mémoire envers mon père qui est en train de me surveiller. Donc, il est au cimetière, là. Mais c'était son œuvre. Donc moi, je veux pas couler. J'ai des comptes à lui rendre. Il va me dire, mais mon fils, qu'est-ce que t'as foutu? Puis vis-à-vis des autres gens aussi, je vais passer pour un branleur. Excusez-moi l'expression. Mais j'ai fait tomber l'entreprise de mes parents.
Non, alors mais j'entends bien.
Pour rien.
J'entends bien. Alors, vous êtes multimarque quand on est vendeur de chaussures?
Voilà, je suis multimarque. Alors, on a une boutique à Oigny où on est multimarque, on vend de tout. Hein, de tout, toutes les chaussures.
Toutes les chaussures, les prix. La chaussure la plus chère, c'est combien?
Non, en prix moyen, je vais dire les chaussures les plus chères en chaussures d'homme. Bon, si je prends une grande marque de luxe française bien connue, je vais pas la prendre celle-ci parce que.
Par exemple, c'est Weston auquel vous pensez?
Non, c'est Paraboot.
Pardon? Paraboot. Paraboot. Ouais, voilà. Ça c'est, mais c'est bon, cher Paraboot.
Ah ben oui, mais j'en vends très très peu.
Et ça c'est combien?
Une paire de Paraboot, c'est 350-400 euros.
Ah oui, c'est pas donné.
Mais attendez, quand j'en vends une, c'est jour de fête. Hein.
Donc ça, c'est le haut de gamme.
Le prix moyen chez moi en chaussures d'homme, par exemple, c'est la fourchette, c'est entre 80 et 120 euros.
Alors les jeunes, vous avez remarqué qu'ils achètent moins de mocassins ou de derby ou de Richelieu. Je ne sais même pas si, par exemple, Greg Karanonis sait la différence entre un derby et un Richelieu. Je crois pas d'ailleurs.
Je crois que c'est la couture du talon, pas du talon, mais
la couture du talon.
Non, c'est pas une couture sur l'embout, le bout de la chaussure, ça se situe pas à cet endroit-là?
Expliquez, monsieur Alain, mais vous allez l'expliquer après la pub. Parce qu'effectivement, les jeunes sont en basket aujourd'hui. Il n'y a plus de mocassins, il n'y a plus de chaussures de ville, comme on disait jadis.
Moi, j'ai des doubles boucles. Hein.
Je salue Jean-Sébastien Petit de Mange, qui est là. Il y a des guests aujourd'hui qui sont en régie. Je ne sais pas ce qu'il prépare, Jean-Sébastien.
Vous savez, il prépare son émission du week-end. Hein.
Exactement, qu'on pourra écouter demain matin, notamment. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est formidable cette émission. La proportion qu'on parle de derby ou de Richelieu, elle était quand même infime à 13h. Et Alain, d'abord, vous vendez des baskets?
Alors j'ai arrêté.
Oui, parce que oui, mais les jeunes portent des baskets. Et en deux mots, parce que je voudrais qu'on termine avec Christian dans une seconde, la différence entre derby et Richelieu pour Greg Karanonis?
Alors, un derby, c'est comme si vous aviez des pattes de cousu au-dessus de la chaussure pour passer les lacets, un peu comme des oreilles, pour passer les lacets, pour faire le lassage. Et le Richelieu, c'est, on va dire, le dessus du pied qui est fendu pour pouvoir passer les lacets.
Voilà. Et ben merci, Alain, vous étiez assez proche.
J'ai une petite précision. Alors, justement, oui. Vous me parliez d'Internet tout à l'heure.
Très vite, parce que je veux qu'on écoute Christian.
Si vous avez repéré une chaussure, un Richelieu sur Internet, et puis que vous avez un fort pied, mais c'est pas la peine de la commander.
Non, mais il faut essayer les chaussures.
Vous n'arriverez pas à la chaussée.
Exactement. Voilà. Les chaussures, il faut essayer. Moi, je dis toujours, les chaussures, ça s'essaye.
Pour les enfants, comment ils font les enfants?
Merci Alain, parce que je veux qu'on écoute Christian. Ouais. Christian habite Dijon, il est content du calendrier, donc je voulais qu'on termine avec une note positive. Bonjour Christian, pourquoi vous êtes content?
Oui, tout d'abord bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe d'RTL. Donc effectivement, je suis globalement content du de ce qu'on appelle depuis hier le calendrier Macron. Parce qu'il y a des dates, il y a des choses précises qui sont annoncées. Hormis deux points, donc le port du masque à l'extérieur n'a absolument pas été évoqué, donc j'espère que cela se fera avec le temps. Et la situation des discothèques n'a évidemment pas été abordée non plus. Donc je comprends le désarroi de cette profession fermée depuis le 15 mars 2020. Mais globalement, je suis content de ce qui a été annoncé par le président, qui a su, depuis le 29 janvier tout de même, résister à ce qu'on peut appeler les enfermistes.
Bah merci Christian, vous faites quelle profession ?
Alors là, je suis en reconversion professionnelle.
Mmh. Vous n'êtes pas concerné par ces réouvertures peut-être ?
Pour l'instant, non, pour l'instant je ne le suis pas. Simplement, je voulais ajouter un dernier point qui est peut-être une analyse un peu plus politique. Je pense que nous aurons un remaniement après les élections locales. Mmh. Et dernière chose, je pense que Olivier Véran, à force d'atermoiement et de tergiversation, est un peu carbonisé. Donc, je pense que Martin Blachier serait le mieux placé pour lui succéder.
Bah écoutez, vous êtes un éditorialiste politique, en fait. Christian, vous...
Je ne sais pas.
Ben,
si. Toujours est-il que Martin Blachier, hein, que l'on entend...
Ah ben, on le reçoit à RTL régulièrement. Merci, Christian.
Voilà.
C'est le débrief de Laurent Tessier. Et on a parlé tellement de choses différentes pendant une heure et demie que j'attends.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
J'attends avec impatience.
Êtes-vous satisfait du calendrier du déconfinement ? Pressé de retrouver une vie un peu plus normale ? Yanis est chanteur et danseur professionnel.
Un minime soulagement parce qu'on va pas se mentir, ça reste encore trop de si et de et abstrait en fait. Après, c'est légitime, on a un peu perdu confiance avec les perspectives, parce qu'on en a eu à plusieurs reprises qui ont été finalement des faux espoirs.
Vous étiez quelques-uns à applaudir ce calendrier, mais l'ambiance est différente pour les patrons de boîtes de nuit. Jean-Marc tient un établissement.
Depuis le 13 mars de l'année dernière, on est fermé, on nous a fermé du jour au lendemain, et puis là, on n'a aucune visibilité. Là, je suis abasourdi par les décisions qui ont été prises hier. Je trouve ça inéquitable, discriminatoire, mais quel mépris, aucune consultation. On est qui ? On est des chefs d'entreprise de seconde zone.
Charlotte est étudiante, elle est venue défendre la réouverture des boîtes de nuit.
J'ai toujours aimé ça parce que, on danse, on est tous ensemble. Ah,
c'est le principe de la discothèque.
C'est le principe. Quelle était d'ailleurs votre méthode de drague, Pascal, jadis ?
Bonjour mademoiselle, je vous offre un petit verre, etc. Ouais. Je regardais danser depuis tout à l'heure.
Très efficace et forcément, votre curiosité prend le dessus. Vous interpellez Charlotte.
Ah, vous draguez les garçons ?
Non, moi non, personnellement non.
Moi, j'ai jamais eu cette chance qu'une fille vienne vers moi pour me dire « Monsieur, je regardais danser, ça c'est jamais arrivé. »
Mais les temps évoluent, c'est même vous qui l'avez dit tout à l'heure.
Ah, oui, bien sûr.
Mais oui, le temps évolue, je sens que ça vous manque cette ambiance.
Puis maintenant, je ne vais plus en boîte de nuit parce que vous me voyez sur...
Mais il faut aller encore au bus Palladium.
Mais non, alors je vais vous dire, il y a un temps pour tout, Charlotte.
Ouais, mais quand même, allez, Charlotte a pourtant tenté de vous convaincre.
Vous y allez, mais voilà, mais il faut...
Ok, Charlotte.
Au bus Palladium, on s'est
pris... Une petite chanson, Charlotte. Toujours ça
passe. Demain, gros programme, samedi 1er mai, c'est la journée mondiale du jardinage nu.
Tout nu et tout bronzé.
Un commentaire, ami Pascal ?
Pour les voisins, c'est une journée intéressante surtout. C'est à côté d'une jeune femme qui est nue sur son tracteur. Et ben, vous êtes le voisin, vous regardez, pourquoi pas, une jeune femme qui est en train de tondre sa pelouse nue, ça peut arriver.
Un charmant programme, et le vendredi, nous faisons le bilan de la semaine de Flavie et Pascal. Notre Baudelaire local, le romantique de RTL, le don juan de la Loire-Atlantique, Pascal sait parler aux femmes.
Il reste pour nous cette brise légère dans la canicule de l'été.
Une belle déclaration qui redonne le sourire à Flavie.
Je vais bien, merci. Depuis que je sais que je suis votre petite brise fraîche dans la canicule de l'été.
Non, légère.
C'était à peu près ça, mais peu importe, une séduction de Pascal marche à tous les coups.
Je ne sais pas si vous avez usé de cela pour séduire les femmes, mais c'est très très fort.
Alors là, aidez la jante masculine en difficulté, cher Pascal. Donnez-nous votre recette, votre secret pour devenir un véritable bachelor.
La désinvolture, la guitare et les motos. C'est trois choses qui sont assez séduisantes.
C'est bien noté. Flavie est séduite par notre Pascal, amoureux de la langue française. Mais est-ce suffisant pour notre présentatrice ?
Dans le fond, est-ce que nous sommes vraiment monogames ?
Oui, je vous pose la question. Vous faites bien d'en parler. Parlons de notre camarade présentateur des flashs sur RTL, Olivier Boy. Dit boy, boy, boy. Cette semaine, nous l'avons trouvé un peu différent, pas comme d'habitude, n'est-ce pas Pascal ?
Il a pris la confiance, Olivier Bois. Maintenant, il chambre. Il chambre, vous avez vu, à l'entête. Il a pris la confiance.
Ouais, nous avons alors mené l'enquête. Musique de circonstance, Greg Caranoni. Flavie Flamand ne serait pas innocente à ce changement. Elle semble faire les yeux doux à Olivier Boy.
Non ! C'est pas possible !
Mais si, exemple lundi lors du Flash Info de 15h.
Dis donc, je vous ai vu ce matin sur M6, vous êtes beau gosse à la télé.
Ah bah je mets une veste et...
Mais oui, c'est ça.
mais
améliorer
l'existant. Mais canon, vous avez un petit côté Ken. Hein.
Ah ouais, 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 ouais.
Et Flavie a l'air d'adorer la pratique sportive d'Olivier Bois.
S'il fait beau demain, c'est... je vais avoir une chance de vous revoir en cycliste sur votre vélo à l'entrée d'RTL ou pas ?
Ben oui, des fois.
Vous connaissez pas ce petit côté Bernardino ?
Redevenons sérieux, il est bientôt l'heure d'en effet pour s'entendre. Coucou Flavie !
Salut !
Ouais, là ce n'est pas la fête en studio, je vous préviens, surtout pour Pascal. Hein.
Oh, vous avez l'air en petite forme.
Si, ça va, tout va bien.
Ouais, vous êtes vexé, ami Pascal, après ces révélations entre Flavie et Olivier Bois.
C'était pour rire. Hein.
Ah, nous voilà soulagés. Une petite idée de playlist pour ce week-end ?
Alors ça, vous mettez ça à hurler dans votre voiture. Lara Fabian, vous criez, vous.
Un dernier mot avant de se quitter, Pascal.
J'irai chercher ton cœur, même si tu l'emportes ailleurs.
Très bien. Même si dans tes
danses. Ah, on termine bien la semaine en chanson, cela fait du bien.
Là, vous nous avez envoyé dans les étoiles. Dans...
Le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui lancera la fin du couvre-feu le 30 juin.
On est un poil en retard. Bravo. Vraiment bravo. C'était formidable. Flavie, dans une seconde.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
On s'en dit des choses, hein ?
Ben oui, on s'en dit des choses.
Oh là 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 là, comment vous allez faire ce week-end sans moi ?
Ben, je vais m'ennuyer jusqu'à lundi.